Présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Le plaisir. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Faut vous lever, maman. Non, j'en ai pas envie. Je ne veux pas. Pourquoi, mère? Parce que j'en ai pas envie. Je ne veux plus. Je ne veux plus rien. Si tu savais comme j'aimerais mourir. Alban avait les larmes aux yeux. Pressait plus fortement la main de sa mère. Oh maman, oh maman, ne pleure pas, ce n'est rien. Et lui caressait les cheveux. Lui mit sa tête sur sa poitrine. Il pleurait. Il ne faut pas pleurer, mon petit. Ce n'est rien. Je ne veux plus vivre. Voilà tout. Mais pourquoi? 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 Ça ne m'intéresse plus. Je ne sers à rien. Mais maman, mais moi, j'ai besoin de toi. Si tu savais comme j'ai besoin de toi, mais non. Tu as ta vie, tu es jeune. Allons, ne pleure pas, ne pleure plus. Allons, ce n'est rien. Écoute-moi, tu vas me faire un grand plaisir. tu vas te lever, t'habiller, manger, et nous partirons tous les deux. Tu verras. Non, je ne veux pas. Tu ne veux pas me faire plaisir? Je ne peux pas. Pourquoi? Rien. Je ne veux pas sortir de mon lit. Allez. Laisse-moi me reposer maintenant. Il se lève. Je suis lasse. Ça est sorti de la pièce. Derrière la porte se trouvait son père.
Alors, que dit-elle?
Elle ne veut pas se lever. Alban allait le quitter. Son père le retint par la manche.
Pourquoi? Pourquoi?
Dit-il d'une voix suppliante. Elle se sent trop lasse.
Mais les médecins disent qu'elle n'a rien.
Je sais.
Que devons-nous faire, mon Dieu? Que devons-nous faire?
Alban baissa les yeux et se mit à hurler.
Je n'en sais rien!
Elle quitta son père. Il alla s'asseoir dans un fauteuil au salon. Nerveusement, avec ses dents, il se rongeait les ongles. S'approcha de lui.
Surtout, ne dis rien, ni à ta sœur, ni à ton grand-père. Ta mère a de la fièvre. On dira cela.
Oui,
c'est la mort de ton frère. Il doit être la cause de ceci. Elle ne s'en est pas remise. Nous non plus d'ailleurs, mais elle, son petit, les médecins me parlent de voyage, de nouveaux horizons. Mais pour cela, il faudrait qu'elle puisse prendre des forces.
Les jours passaient, passaient, tristes et monotones. Madame de Condorcet restait dans son lit, sans bouger ni penser. Elle s'imaginait qu'elle était morte. Elle ne s'alimentait que très peu et maigrissait. Ses cheveux blanchissaient. Elle n'était pas peignée, car elle ne voulait pas. En quelques semaines, elle était devenue méconnaissable. Ses amis allaient chez elle pour avoir de ses nouvelles. Elle ne les recevait pas. On la plaignait et l'on disait que tout ceci était dû à la perte de son fils. Constant et Axel, lorsqu'ils allaient la voir, elle essayait de leur faire bonne mine, mais c'était dur, de plus en plus dur pour elle, et eux s'apercevaient qu'il y avait quelque chose de grave. Ils interrogeaient le père et le frère, mais ne disaient rien de concret. Un jour, Axel interrogea son frère. Ils étaient au salon, debout, lui, le dos au mur. Mais qu'a-t-elle ? Rien. Une simple grippe. Ne dis pas que c'est une simple grippe. Cela fait des mois et des semaines qu'elle est au lit. Elle maigrit, elle vieillit à vue d'œil. Je t'en supplie, dis-moi ce que c'est. Je ne suis plus une enfant, j'ai 20 ans. Je suis prête à tout savoir. Dis-le ou j'hurle. Les médecins disent qu'elle n'a rien. Comment elle n'a rien? Mais c'est impossible. Qu'est-ce que tu me dis là? C'est la vérité. Alors pourquoi est-elle toujours au lit? C'est elle qui ne veut pas se lever. Qui ne veut pas se lever? Dis plutôt qu'elle ne peut pas se lever. Non, elle ne veut pas. Et pourquoi? Elle n'en a pas envie. Comment elle n'en a pas envie? Elle n'a goût à rien. Pourquoi? Est-ce que j'ai, moi? Dit-il agacé. Et, se détournant d'elle, cognait sa tête contre le mur, se mit à pleurer. Et dit en hurlant, elle veut mourir. Tu comprends? Elle veut mourir. Isabelle se plaqua contre le dos de son frère et se mit à pleurer. Il se tourna, la prit dans ses bras, les larmes aux yeux, lui donna un baiser. Surtout, ne dis rien à grand-père. Avec maman, je fais comme si tu ne savais rien. Oui, mais que pouvons-nous faire? Il n'y a rien à faire. Il faut attendre. Elle doit choisir la vie, le monde. Et pourquoi ce dégoût de vivre? Je ne sais pas. Peut-être tout. Peut-être rien. La mort de ton frère. Oui, elle y était. Très attachée, Hippolyte. Alors, viens. Il faut surtout lui faire bonne mine. Oui. Semaine passée, Madame de Condorcet s'affaiblissait, elle prenait des crampes, elle faisait aller son corps d'en avant en arrière lorsqu'elle était assise sur son lit, elle se grattait tout le temps, sa vue baissait, ses yeux allaient et venaient dans tous les sens, la famille inquiète ne savait que faire, les médecins prescrivirent des calmants. On la forçait à les prendre. Ils furent efficaces, mais elle dormit tout le temps. Un jour, Alban vient la voir.
Tu es réveillée, mère?
Oui. Elle parlait d'une voix faible et douce. S'approcha du lit. Et s'agenouilla.
Comment vas-tu?
Ça va. Je suis pas malade. Je n'ai qu'une vie. Ce n'est pas une vie que je mène. Il vaut mieux que je meure. Tu ne crois pas?
Oh, mère.
Mais si, regarde, je ne fais rien. Je ne suis plus rien. Je vous embête.
Oh, maman, maman, nous vous aimons?
Oui, peut-être, mais je vous suis un fardeau. Non, je serais mieux morte. Je suis lâche de ne pas me donner la mort.
Mère, ne dites pas cela. Vous êtes malade. Vous guérirez. Vous verrez.
Mais non. Et puis, une illumination. Elle se leva sur son séant et lui dit.
Si tu me tuais, hein? Si tu me tuais, tue-moi. Tue-moi. Je t'en supplie.
Ça n'est pas Alban, terrifié.
Je t'en supplie. Tue-moi!
C'est un service que je te demande.
Rends-moi ce service.
Rends-le-moi.
Alban, finons de la tête. Les larmes aux yeux.
Il sortit de l'emprise de sa mère.
Il est parti en courant.
Et s'effondra sur son matelas, la tête en avant.
Personne ne veut m'aider. Personne ne veut m'aider.
Alban courut dans sa chambre, effondré.
Il se coucha sur son lit.
De ceci, il n'en parla à personne.
Le lendemain, il revit sa mère. Elle semblait avoir tout oublié.
Les semaines passaient, les titres de Madame du Condorcet avaient disparu. Elle restait la plupart du temps dans son lit, immobile, sans bouger. En quelques mois, elle avait vieilli de 20 ans, était devenue vieillarde. Monsieur de Condorcet, lui aussi, avait vieilli. Il n'était plus le même. Son caractère s'était aigri. Constantin de Condorcet ne comprenait rien à la maladie de sa belle-fille. et cela l'irritait. Alban et Axel souffraient de ne pouvoir rien faire, de voir leur mère baisser. Les semaines passaient. Et un jour, Madame de Condorcet sonna. Elle voulait qu'on lui apporte son petit déjeuner. C'était un jour de printemps ensoleillé, elle se trouvait seule avec les domestiques.
Entrez!
Madame se sent mieux ? Demanda la bonne.
Oui, merci. Apportez-moi encore du pain.
Ah ça, monsieur va être content. Son bon petit déjeuner lui donnait des nausées et des envies de vomir.
Puis, elle voulut se lever.
Et toutes les peines du monde à le faire. Pour s'habiller, elle lui demandait de l'aide à une femme de chambre qui la soutenait.
Madame s'habille ?
Oui.
Madame devrait rester au lit. Elle est si pâle. Vous tremblez toutes.
Je n'ai rien. Je dois sortir.
Madame va sortir ?
Oui.
Pas seule ?
Mais si.
Voyons, madame, vous ne pouvez pas faire 10 pas.
Ici, regardez.
Elle se fit. Elle fit quelques pas dans la chambre. C'était la volonté qui lui aidait.
Voyez. Et puis de toute façon, je dois sortir.
Prenez un fiacre.
Non, j'en ai pas besoin.
Attendez, madame, je vais vous coiffer.
Madame du Condorcet s'assit devant sa coiffeuse. Et on la peigna.
Madame devrait aller où se faire tondre les teindre les cheveux. Ça n'a pas d'importance.
Est sortie, là de la rue, lui donna le vertige.
Mais où est madame? Où est ma femme? Elle n'est pas dans sa chambre.
Monsieur de Condorcet était surpris. Le lit était fait, tout était en ordre. La chambre baignée de lumière. Un espoir vint à l'esprit. Serait-elle guérie? Sortie de la chambre. Rencontra la femme de chambre.
Où est madame?
Madame est sortie.
Sortie? Pour aller où?
Je ne sais pas, monsieur.
Ça fait longtemps qu'elle est sortie.
Une heure à peu près.
Edmond de Condorcet était inquiet.
Elle était sortie, comme ça, sans prévenir.
Et pour aller où?
Alban arriva. Son père le mit au courant.
Père, faut savoir où elle est allée. Que peut-elle avoir dans la tête?
Attendons un peu.
Une demi-heure plus tard, ils sont tous les deux assis au salon. Le soir commence à tomber.
Comment? Demanda Alban.
Je ne sais.
Demande-le au domestique.
Entrez. Comment est partie madame?
Madame est partie comme ça.
À pied.
Pas de fiacre?
Non, nous voulons en faire venir un, mais elle n'a pas voulu.
Père, vous commencez les recherches.
Comment, mon Dieu?
Envoyez les domestiques chez nos amis, puis prévenir.
Je ne sais pas, moi.
Le commissariat.
Envoyez les domestiques dans le quartier. Demandez aux commerçants s'ils n'ont jamais vu, s'ils n'ont pas vu par hasard.
Fut fait. Les amis, le commissariat, promirent de les informer dès qu'ils auraient du nouveau. Ils étaient tous assis pour à table pour le dîner. La famille était inquiète. Axel tenait la main de son frère. Constantin de Condorcet restait les yeux fixés sur son assiette. Les soirées se passaient à attendre. Une attente interminable. La nuit, dans leur chambre, seul ne dormant, Alban se souvenait des jours heureux de son enfance avec sa mère, des promenades dans le jardin public qu'ils faisaient ensemble lorsqu'ils étaient tout petits.
Mon maman, tu étais belle avec ta robe d'été blanche, ton chapeau à large bord et ce parfum. Je tout parfois, toi.
Ah. Le lendemain matin, ils furent convoqués au commissariat. Albin y alla seul. Son père n'avait pas la force d'y aller. Sa mère avait été retrouvée morte, noyée dans la Seine. Ses papiers étaient sur elle. Alban était effondré. Tout s'était effondré. Son père resta sans parler. Les yeux fixes, Axel eut une crise de nerfs. On dut la porter dans sa chambre. Constant, teint de Condorcet, hébété. Alban resta seul près de son père. Les deux, se tenant la main sans rien se dire. Le soir, Alban était allongé sur son lit. Il avait une sensation étrange. La fin de quelque chose, la fin d'un rêve. Maintenant, à cause de la mort de sa mère, il est rentré dans la vie d'homme. C'était la fin de sa jeunesse. Cette jeunesse qui n'aura plus, sa mère morte. Une page était tournée, la plus belle page, pour la première fois de sa vie. Il eut peur de l'avenir. Alban avait malgré tout beaucoup de difficultés à admettre que sa mère était morte. Trop de souvenirs récents accaparaient son esprit. La mort d'un être cher ne se ressent vraiment que beaucoup plus tard, lorsque certains souvenirs récents deviennent de vrais souvenirs confus et brumeux. Alors, Alban voyait toujours l'image de sa mère, mais pas l'image récente, mais celle de sa mère jeune et belle. Il ne la voyait pas malade et faible, mais en pleine vie et forte. Les funérailles et le deuil furent très pénibles pour la famille. Edmond de Condorcet avait beaucoup vieilli. Il restait des heures dans un fauteuil sans parler. Axel s'enfermait. Dans sa chambre, et des fois s'efforçait à le distraire. Alban restait dans sa chambre, dans ses pensées. Le grand-père fut envoyé chez les deux dans cour. Il y eut de nombreuses visites. Ce fut pénible de les recevoir, toujours dire la même chose, entendre toujours les mêmes choses. Et un jour, Alban fut invité à dîner chez François Dussert. Il habitait un petit deux pièces, très coquet. Chez lui, tout était soigné et bien rangé. Il vivait seul. Une femme de ménage venait chaque matin préparer ses repas. Pour Alban, il avait commandé un traiteur.
Sonna à la porte de François. La porte s'ouvrit.
Bonjour.
Bonjour.
Tiens, je t'ai apporté une bouteille.
Mais il ne fallait pas.
J'ai tout ce qu'il me faut. Tiens, entre. C'est bien chez toi.
Oui, c'est pas mal. C'est une vieille tante qui m'a... que j'ai pas connue d'ailleurs. Et qui m'a aidé cet appartement.
Eh bien, mon vieux...
Tiens, viens t'asseoir. Le traiteur ne va pas tarder.
Ils se sont mis à table.
Maintenant que tu es logé, il ne te reste plus qu'à trouver une femme, dit Alban.
Oh, moi, tu sais, les femmes.
Et puis, je crois que je ne me marierai jamais, dit François.
On dit ça?
On dit toujours ça.
Et puis, les femmes?
Puis elle te plaise bien, non?
Dit Alban.
Comme ça, sans plus.
Ne fais pas la fine bouche.
Tu es content d'en avoir de temps en temps une, non?
ne serait-ce que pour tes petits besoins. Tu n'as pas à rougir, nous sommes tous pareils, dit Alban.
Tu crois?
Oui, sauf, bien sûr.
Tu veux boire quelque chose?
Non, merci. J'ai surtout faim. Je viens de passer la nuit chez une fille et j'ai pas pris mon petit déjeuner.
Ah!
François n'était pas du tout attristé par cette nouvelle. Il n'était plus jaloux des nombreuses conquêtes d'Alban. Il les trouvait tellement quelconques. Tellement quelconques.
Le temps passait. Et on se bat. Tu vois être le traiteur. Il allait voir. Il ouvrit, mais ce n'était pas le traiteur. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Une charmante jeune fille, grande, mince, yeux bleus, blonde, cheveux mi-longs, était habillée d'une petite robe toute simple et portait à la main quelques livres et des cahiers. Qui était attaché avec un cordon.
Tu n'es pas contente de me voir, cousin?
Mais si, cousine, mais je t'attendais pas. Et puis j'ai un invité.
Ah, bon? Non, rentre tout de même.
Alban se leva. Alban de Bricourt, je te présente ma cousine, Isabelle Florian.
Mademoiselle, monsieur.
Alban était surpris et ébloui par la jeune fille. Elle semblait si jeune, si pure, presque une enfant. Elle compara Alban à son cousin qu'elle aimait, car il était très beau et gentil. Elle trouvait qu'Alban faisait plus homme, moins fin, moins délicat. Sa préférence alla à Alban.
Eh bien, asseyons-nous.
Et ils se sont assis.
Pour déjeuner, c'est-à-dire comme tu reçois, ce n'a pas d'importance. Oui, ma cousine, que voici, après ses cours, vient souvent me rendre visite.
Vous êtes étudiante, mademoiselle? Demanda Alban.
Oui, monsieur, à Sainte-Marie du Sacré-Cœur.
Et que comptez-vous faire plus tard?
J'aimerais, c'est être infirmière.
Infirmière?
Oui.
Ils se regardèrent un instant. Les yeux dans les yeux. Alban était ébloui par ce visage si pur. Elle attirée par la force et la douceur du visage d'Alban. Je ne rendais pas compte qu'elle en devenait amoureuse, vraiment amoureuse, pour la première fois.
Le traiteur arriva. Ils ont pu manger.
Ce fut un repas très gai.
Isabelle oublia son trouble. Elle n'avait que 18 ans et se mit à parler de sa vie au collège.
Ma meilleure amie, c'est Florence. Elle a un fichu caractère.
Nous tripons le chignon quelquefois.
Elle me chipe toutes mes affaires, même ma boîte de couleurs et mes gants. Elle est incroyable.
Alban et François riaient.
François n'en voulait plus à sa cousine d'être venue.
Interrompre le tête-à-tête. Parce qu'il l'était avec son ami, sans être obligé de parler. Et ça lui permettait
de dévisager Alban sans être vu. Après le repas, Isabelle dut partir pour retourner à son collège. Comment trouves-tu ma cousine? Charmante, belle, merveilleuse. Était décidé c'est de conquérir le corps d'Isabelle. Il se rendit alors de la sortie des cours de Sainte-Marie du Sacré-Cœur. Ils n'étaient pas nombreux à attendre. Elle était une des premières à sortir. Dès qu'elle le vit, elle fut surprise. Tiens, que faites-vous ici? Je suis venu vous dire bonjour. Bonjour. J'ai quelque chose à me dire. Je vais simplement vous voir. Alban était gêné. Il savait quoi dire. Et puis, toutes ces jeunes filles qui allaient venir autour de lui. Marchons, voulez-vous?
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Le Plaisir. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.